Quelles sont l'actualité?
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Heures à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal, bonjour Gaëtan Plenet.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Nous avons besoin d'un filet de sécurité américain dans l'objectif d'une paix durable en Ukraine. Déclaration hier soir du Premier ministre britannique Keir Starmer. Juste avant de s'envoler pour Washington, il doit y rencontrer aujourd'hui le président américain Donald Trump. Dans ce journal également, les corps sans vie de 4 nouveaux otages israéliens rendus par le Hamas cette nuit. On parlera aussi de la France qui menace de remettre en cause l'accord franco-algérien de 1968 sur fond de tension sur la question migratoire. Et puis un mort de la rougeole aux États-Unis, ce n'était plus arrivé depuis 10 ans, alors qu'une épidémie sévit au Texas. La victime, un enfant, n'était pas vaccinée. Volodymyr Zelensky invité à un sommet spécial de l'Union européenne le 6 mars prochain. C'est le président du Conseil européen qui l'annonce ce matin à la veille d'un déplacement à la Maison Blanche. Mais avant lui, c'est un autre dirigeant européen qui s'y rend à Washington. Et là aussi, c'est pour parler de l'Ukraine. Le Premier ministre britannique Keir Starmer attendu sur place ce jeudi pour y rencontrer Donald Trump. Comme l'a fait avant lui le président français Emmanuel Macron en début de semaine, Keir Starmer va tenter de s'assurer que la paix en Ukraine ne se fasse pas sans l'Ukraine et pas sans les Européens non plus, Julien Chavannes.
La presse britannique y voit le premier vrai test diplomatique pour Keir Starmer. Ce déplacement à Washington donnera le ton dans les relations futures entre les deux pays. Et pour amadouer son interlocuteur, le Premier ministre britannique a prévu le coup. Avant de s'envoler outre-Atlantique, il a annoncé une augmentation inédite du budget de la défense, exactement ce que réclame au vieux continent Donald Trump. Keir Starmer a aussi pris le temps de téléphoner à Emmanuel Macron pour débriefer sa visite à la Maison Blanche. Sur l'Ukraine, il va plaider comme le président français pour que les Ukrainiens et les Européens fassent bien partie des discussions avec la Russie. Keir Starmer se verrait bien jouer au facilitateur entre les États-Unis et l'Europe, mais il espère aussi protéger son pays des hausses des tarifs douaniers qui menacent déjà l'Union européenne. Ce sera seulement la deuxième rencontre entre Keir Starmer et Donald Trump, deux hommes au caractère diamétralement opposés. Ils avaient dîné ensemble pendant 2 heures en septembre dernier dans l'appartement du candidat républicain à Manhattan. Keir Starmer avait alors tout misé sur lui, sans prendre la peine de rencontrer sa rivale Kamala Harris.
Julien Chavannes, les États-Unis toujours qui annoncent la suppression de 92% des financements à l'étranger de l'USAID, l'agence américaine de développement. Ça représentera, nous dit la Maison-Blanche, des économies de près de 60 milliards de dollars. Le financement de cette agence était déjà gelé depuis plusieurs semaines maintenant, suscitant l'inquiétude de nombreuses organisations internationales alors que l'USAID représente à elle seule 42% de l'aide humanitaire mondiale. Simple routine se justifie ce matin la Chine. Face à la presse, le porte-parole du ministère de la Défense est revenu sur les exercices en cours au large de Taïwan qui, en réponse, a déployé des forces évoquant des exercices à tir réel. Pékin dénonce une hyper-médiatisation par Taipei. Et je rappelle que la Chine considère toujours ce pays comme faisant partie de son territoire. Nous ne promettons pas de renoncer à l'usage de la force, ajoute ce matin le ministère chinois de la Défense. Ramener tous les otages, qu'ils soient vivants ou morts, est une obligation morale, dit le président israélien Isaac Herzog. Hier soir, les autorités israéliennes ont libéré près de 600 prisonniers palestiniens en échange du rapatriement des corps de 4 otages israéliens tués à Gaza. Leur identité a été confirmée ce matin. Parmi eux, le franco-israélien Ohad Yahalomi. La barbarie du Hamas doit prendre fin, réagit le président français Emmanuel Macron. La France, ou le porte-parole du gouvernement, assure sur le plateau de BFM TV que son pays n'a fait que tendre la main à Alger en lui proposant de réexaminer les accords migratoires qui lient les deux pays. À proposition faite en effet hier par le Premier ministre François Bayrou au terme d'un comité interministériel sur l'immigration, sujet de tension entre les deux pays. Des tensions ravivées il y a quelques jours avec l'attentat de Mulhouse perpétré par un ressortissant algérien sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Selon le gouvernement de Paris, les autorités algériennes auraient refusé de 14 fois de le reprendre sur leur sol. Paul Lorgerie, la France réagit donc en proposant de revoir l'accord de 1968.
Cet accord, qui confère un statut unique aux Algériens et facilite leur circulation entre les deux pays, a été révisé à 3 reprises, restreignant ainsi leurs conditions d'entrée. Un principe souvent débattu au Parlement français, comme en 2023, lorsqu'une proposition de loi en faveur de l'abrogation de ce traité a été déposée par les Républicains.
revenir à chaque fois aux accords de 68, il y en a marre.
Yazid Ben Ami est membre du groupe de réflexion sur l'Algérie, mais c'est en tant que franco-algérien qu'il souhaite s'exprimer.
Les gens qui viennent d'Algérie, ils déposent leur visa au consulat français à Alger ou ailleurs, ils ne viennent pas avec une stratégie parce qu'il y a les accords de 68. Je vous le dis honnêtement, c'est ridicule.
Selon une spécialiste du Maghreb, la déclaration du Premier ministre français est un positionnement pour certains acteurs politiques français, et les deux pays en sortent perdants. Difficile pour autant de dire quels seront les effets si Paris décidait de dénoncer l'accord. Pour Pierre Vermeyren, historien spécialiste du Maghreb, cela pourrait avoir des conséquences sur le nombre de visas délivrés par la France.
Les 250 000 visas que la France accorde actuellement à l'Algérie, qui sont dans la sellette, peut-être pas en totalité bien sûr, mais en tout cas en grande partie, si l'accord de 68 venait à être réduit.
Selon l'historien, un autre accord pourrait être dans le collimateur des autorités françaises, celui de 2013, portant sur l'exemption de visa pour les Algériens détenant un passeport diplomatique.
Précision de Paul Lorgerie. Ce qui se passe dans l'est de la RDC est inacceptable, déclaration du procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan, qui a achevé sa visite dans le pays. Il a plaidé pour la création d'un tribunal pénal pour le Congo chargé d'enquêter sur les crimes commis dans la région où le M23, soutenu par le Rwanda, poursuit son offensive. La journée s'annonce tendue en Guinée-Bissau. L'opposition appelle à paralyser le pays en fermant les marchés, les boutiques et les bureaux. Pour elle, c'est aujourd'hui, jeudi 27 février, qu'est censé s'achever le mandat du président Oumaro Sissoko Embalo. Qu'importe la décision de la Cour suprême qui, elle, a statué que ce mandat s'étendait jusqu'au 4 septembre. Pour ce qui est des élections présidentielles et législatives, le chef de l'État a annoncé qu'elles auraient lieu fin novembre. À l'épilogue de longues et difficiles tractations en Autriche, le Parti conservateur annonce qu'un accord a été trouvé en vue de la formation d'un gouvernement. Un accord avec les sociaux-démocrates et les libéraux. Leur programme doit être présenté dans la journée. Les discussions avec l'extrême droite arrivée en tête lors des dernières élections avaient, elles, officiellement échoué il y a quelques semaines déjà. Pendant ce temps, en Espagne, réunion houleuse hier au Conseil de politique fiscale et financière. Les 14 conseillers du grand parti de la droite, le Parti populaire, ont quitté la séance brutalement, dénonçant un théâtre de la part du gouvernement socialiste. Ce dernier a proposé un effacement de la dette de plusieurs régions à hauteur de 83 milliards d'euros. Et c'est loin, très loin de faire l'unanimité. Les explications depuis Madrid de notre correspondant François Musso.
Toutes les régions de droite en Espagne se sont opposées à une proposition d'allègement de leur dette envers l'État central. Cela peut paraître curieux de l'extérieur, d'autant que parmi les régions qui pourraient le plus bénéficier de cet effacement partiel de leur dette figurent l'Andalousie, Madrid ou Valence, toutes dominées par la droite. Pourquoi donc ce rejet? À en croire le leader de l'opposition, Núñez Feijóo, c'est là une manipulation des socialistes qui ont aussi proposé un effacement de la dette de 17 milliards d'euros pour la seule Catalogne afin de s'assurer le soutien des forces séparatistes catalanes. Et ainsi, pour Pedro Sanchez, de garantir son maintien au pouvoir et le vote de son budget. Dans le camp socialiste, on dit tout l'inverse. Il est incroyable que la droite ne se réjouisse pas de cette diminution de la dette des grandes régions et ne s'intéresse qu'à faire tomber le gouvernement en place. L'initiative a été approuvée au sein du Conseil de politique fiscale et financière, car la gauche y a la majorité absolue. Mais elle aura besoin d'être approuvée au Parlement, et avec cette opposition massive de la droite, ce vote est très loin d'être acquis. François Musso, Madrid, RFI.
Une épidémie de rougeole aux États-Unis, alors pas partout, mais dans l'État du Texas. Et pourtant, la maladie était considérée comme étant éradiquée au début du siècle. Eh bien, ce n'est visiblement plus le cas, et un enfant y a succombé. À Washington, Guillaume Nodin.
C'est le premier décès de la rougeole aux États-Unis depuis 10 ans. C'est un enfant non vacciné, en âge scolaire, qui est mort après avoir été hospitalisé. L'épidémie a démarré fin janvier dans l'ouest du Texas, une partie rurale de l'État. Jusqu'ici, 124 cas de rougeole, dont 80 concernant des enfants, ont été observés dans 9 comtés. L'un de ces comtés concentre notamment une communauté ménonite qui, un peu comme les Amish, mais de manière moins absolue, se méfie de la modernité. La vaccination est recommandée par les autorités de santé locales et nationales, mais le taux de vaccination a baissé ces dernières années, notamment depuis la pandémie de Covid-19 et la diffusion de fausses informations sur l'efficacité des vaccins. Le taux de vaccination dans les jardins d'enfants est désormais dans la plupart des États en dessous de 95%, qui est considéré comme le seuil pour éviter les épidémies. Le ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr., connu pour être critique de la vaccination, a expliqué pendant la première réunion du gouvernement Trump qu'il suivait la situation en ajoutant que ces épidémies ne sont pas inhabituel. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et puis on a appris il y a quelques minutes la disparition de l'acteur Gene Hackman, retrouvé mort à son domicile avec son épouse au Nouveau-Mexique. On ne connaît pas encore les circonstances de ce décès, mais les autorités américaines disent n'avoir trouvé aucune trace d'acte criminel. Gene Hackman, connu notamment pour son rôle dans French Connection, qui lui avait valu l'un de ses deux Oscars. 10h10 à Paris, vous retrouvez Caroline Paré pour Priorité Santé.
Un grand merci à vous, Gaëtan Plenet.